Oh, Ben dans Wai, ils vont pouvoir écouter.
Radio Primitive.
La radio libre et associative.
Ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que j'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Bon, alors ce soir, on va faire une émission finalement de rentrée pour nous. Les Régors s'est inscrit dans une campagne de soutien à un Italien, Vincenzo Vecchi, qui doit purger une peine de 12 ans de prison en Italie, s'il est estradé. Donc, on saura ça le 11 octobre, si la Cour de cassation prend position ou pas. Néanmoins, on va vous faire écouter une émission qu'on a reprise. C'est d'une radio de Sainte-Afrique qui s'appelle Dissonance. Bonne écoute, et à la fin, on reprendra la parole.
Compatriote breton, notre ami, et que c'est aussi pour ça qu'on lutte, mais au travers de lui, c'est pour les principes, c'est pour les droits fondamentaux de tout citoyen européen d'avoir le droit de manifester sans avoir peur de prendre une peine extraordinaire à faire, parce que des gens autour de vous auront commis des faits de dégradation. Voilà, c'est pour tout ça, c'est pour qu'effectivement une femme polonaise soit pas poursuivie pour avoir avorté et que la France soit obligée de la remettre. C'est vraiment pour ces droits fondamentaux et ces valeurs essentielles que nous combattons.
Il faut se souvenir que ces manifestations de Gênes en juillet 2001, et il y a 21 ans, ils étaient lanceurs d'alerte et ils disaient « le monde ne va pas bien, on est complètement en train de courir à sa perte ». C'est eux qui étaient là et c'est eux qui ont subi une répression féroce et Vincenzo en fait partie.
Le 11 octobre, effectivement, là, c'est une grosse date. Et là, on espère des actions au niveau européen. Parce que donc, la décision de la Cour européenne de justice vient de nous démontrer qu'une loi fasciste italienne peut être appliquée partout en Europe sans aucun problème.
Vincenzo Vecchi est sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis par la justice italienne en 2019 à la suite de sa condamnation à 12 années de prison pour avoir participé au contre-sommet du G8 à Gênes en 2001.
Alors même qu'il vit, réfugié en France à Rochefort-en-Terre, dans le Morbihan en Bretagne, depuis 11 ans, parfaitement intégré et apprécié de tous.
Il faut rappeler que dans le contexte de violences policières des manifestations du contre-sommet du G8 à Gênes, Vincenzo Vecchi n'a blessé ni agressé personne. Seuls des délits matériels lui sont reprochés, y compris ceux commis par d'autres autour de lui dans la manifestation.
Et c'est sur la base d'une vieille loi, prise à l'époque où les fascistes étaient au pouvoir en Italie, sous Mussolini, que Vincenzo est poursuivi.
La Cour de justice européenne vient de donner son avis ce 14 juillet 2022 dans le cadre de l'affaire Vecchi.
La Cour juge que la loi pillage et dévastation d'origine mussolinienne n'a pas besoin d'avoir une équivalence stricte avec une loi française pour pouvoir être appliquée en France.
Ainsi donc, la Cour de justice européenne autorise l'application d'une loi fasciste dans l'Union européenne.
L'enjeu de cette lutte contre cette épée de Damoclès qui menace Vincenzo dépasse aujourd'hui le cadre de son cas personnel, car il en va de la sauvegarde de nos droits fondamentaux et de nos libertés pour tous les Européens.
À quand l'exécution d'un mandat d'arrêt européen à l'encontre d'une citoyenne polonaise réfugiée en France pour avoir avorté dans son pays ?
Il est donc urgent de se mobiliser avant le 11 octobre 2022, date à laquelle la Cour de cassation va rendre sa décision.
Laurence, Pascal et Hervé, membres du comité de soutien à Vincenzo Vecchi, viennent évoquer l'importance qu'il y a à soutenir cette lutte primordiale pour la défense de nos droits fondamentaux.
Allô, oui.
Bonjour Laurence, c'est Joseph de Radio Sainte-Afrique. Dont Vincenzo Vecchi, qui réside en France, est sous le coup d'un mandat d'arrêt européen MAE émis par la justice italienne en 2019 à la suite de sa condamnation à 12 ans de prison. Donc j'imagine que c'est un chef mafieux, un dangereux criminel. Pourquoi est-il poursuivi ?
Ta question est parfaitement judicieuse. En fait, Vincenzo, il est coupable d'avoir participé aux manifestations qui ont eu lieu en 2001, exactement le 20 et le 21 juillet 2001, à Gênes, en Italie, à l'occasion du G8. Il y a eu des mouvements de contre-mouvements situés contre le G8. Les chefs d'État étaient réunis au centre de Gênes et tout était organisé, si tu veux, pour que la répression soit féroce.
L'actualité de ce samedi 21 juillet, c'est aussi le sommet du G8 à Gênes, en Italie. La mort hier d'un jeune extrémiste italien tué d'une balle en pleine tête par la police n'a pas empêché de nouveaux incidents cet après-midi en marge de la grande manifestation anti-mondialisation. On fait le point tout de suite avec Pascal Golomère et Gilles Jacquier.
La manifestation se voulait massive. Avec 200 000 personnes, l'objectif est atteint. Mais les organisateurs n'ont pu éviter les violences. À l'approche de la zone rouge, quelques centaines d'éléments tout au plus veulent forcer le passage. Les forces de l'ordre ripostent. D'abord à coups de grenades lacrymogènes. Le cortège, lui, tente d'avancer malgré tout sur une avenue à l'écart. Le service d'ordre, de chaque mouvement, canalise la foule. Mais les forces de l'ordre veulent repousser alors les agresseurs. Mouvement de panique et de colère chez les manifestants.
C'est un scandale, c'est un scandale. Ceci dit, on est plus de 200 000, 300 000 et ça donnera un bon coup d'arrêt à cette mondialisation.
La journée est gâchée à cause
non,
de ces
la journée n'est pas gâchée, la journée est réussie. Les gens sont pacifistes, les gens manifestés, ils résistent même à la provocation. Pour nous, c'est réussi.
Mais c'est fini. À 15h, la violence l'a emporté. Les forces de l'ordre veulent repousser tout le monde sans distinction.
Ils répondent par la violence, ils nous agressent alors qu'on est venus pacifiquement.
On sait maintenant que depuis des mois, le gouvernement, c'était Berlusconi à l'époque qui était aux manettes, on sait que le gouvernement avait décidé de faire un exemple de ces manifestations contre le G8 et de faire en sorte que ce soit complètement d'éliminer, si tu veux, toute revendication. Ça a été une réussite pour eux dans la mesure où toutes les années 2000, en Italie, les gens n'osaient plus bouger. Les gens n'osaient plus descendre dans la rue, n'osaient plus manifester, car la répression a été sanglante. J'en veux pour preuve, si tu veux, il y a le chef de la police de l'époque, Franco Gabrielli, qui en 2016 va reconnaître officiellement que la justice a commis des exactions et que la situation a été gérée de manière, il le dit, tout simplement catastrophique. Je le cite, « À Gênes, un nombre incalculable de personnes innocentes ont subi des violences physiques et psychologiques
qui les ont marqués à vie. Si aujourd'hui encore, 16 ans après, c'est un motif de douleur, de rancœur, de défiance envers la police, cela signifie que la réflexion n'a pas été suffisante. Et c'est effectivement comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, en fait, pourquoi est-ce que Gênes s'est passé de cette manière-là et pourquoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'expliquer ce qui s'est passé à Gênes? Ben, parce qu'en fait, le 11 septembre 2001, c'est les tours, les Twin Towers qui tombent. C'est le terrorisme qui est mis en exergue, etc. Et du coup, il y a eu une espèce d'oubli complet de ce qui s'était passé à Gênes en juillet 2001. Pourtant, nous, on a vraiment besoin de le rappeler parce que cette répression féroce, ils ont tué une personne. Il y a un jeune manifestant de 24 ans qui a été tué à bout portant d'une balle par la police. Il y a eu des actes de torture qui seront dénoncés en 2015 ou 2016 par Amnesty International, où l'Italie reconnaîtra qu'effectivement il y a eu des exactions de ce genre. Il y a eu des fausses preuves déposées dans un des lieux qui a été envahi par la police, où dormaient les manifestants, parce que les manifestants venaient de tous les pays d'Europe notamment, dans ce lieu qui était une école, l'école Dias. Il y a eu des actes de torture, il y a eu aussi également des dépôts de fausses preuves. Les flics ont déposé des cocktails Molotov pour ensuite dire, regardez, on a raison de vider cette école et de le vider de manière violente et forte, parce que ce sont des malfaiteurs, regardez, on a trouvé des cocktails Molotov. Et ensuite, il a été prouvé que non, c'était la police qui les avait déposés elle-même. Et des exemples de ce genre, on en a tout un tas. Et ce qui s'est passé, c'est que quand la répression donc a eu lieu, après cette répression, l'État italien a décidé de trouver des coupables face aux coupables évidents de la police. Et ils ont veillé à ne prendre aucune personne qui soit affiliée à un groupuscule quel qu'il soit. Donc ils ont choisi une dizaine de personnes, ce qu'on appelle les 10 de Gênes et dont fait partie Vincenzo. Ils les ont choisis n'ayant aucun lien entre eux, n'ayant aucun lien avec quelque groupuscule que ce soit, et ils ont utilisé à leur encontre une loi qu'on appelle la loi Rocco, issue du code Rocco, qui est le code des années 30 sous Mussolini, qu'on appelle la loi dévastation et pillage, ou dévastation et saccage, c'est la même chose. C'est une loi qui a ceci de très spécifique, que tu es présent dans une manifestation. Il s'y passe quelques exactions, des barricades sont montées, des magasins ou des vitrines sont brisées, éventuellement une voiture est brûlée, etc. Ta simple présence sur le lieu où ce commettre s'est fait, il n'y a aucune preuve que tu les aies commis toi-même, mais ta simple présence te vaut l'application de cette loi dévastation et saccage, dévastation et pillage, qui te donne entre 8 et 15 ans de prison ferme. Quand on raconte ça, quand on le dit, quand on donne ces termes, on n'y croit pas, on se dit mais c'est complètement fou, pour la simple présence. Oui, pour la simple présence, pour ce qu'on appelle le concours moral, le concorso morale. Et cette loi dévastation et pillage est assortie de cette précision concours moral. Tu es là, tu es présent, ça suffit.
Ça veut dire qu'il peut leur être reproché, à ces 10 de Gênes, de n'avoir rien fait pour arrêter les violences des manifestants.
C'est très exactement ça. C'est-à-dire que, tu as raison, c'est important de le dire, ce fameux concours moral considère que tu étais présent, tu n'as rien fait, mais tu aurais dû empêcher, tu aurais dû éviter, tu aurais dû te mettre vers une barrière entre les manifestants et l'acte qu'ils voulaient commettre. Bon, c'est complètement fou. Enfin, je pense que chacun d'entre nous, à un moment ou un autre de sa vie, s'est retrouvé dans une manifestation où il pouvait y avoir éventuellement quelques exactions, etc. Si j'avais su que je risquais entre 8 et 15 ans de prison ferme, ça modifie beaucoup ta relation à la revendication, à la manifestation, à la descente dans les rues, etc., qui pourtant est un droit. Oui, pourtant est un droit constitutionnel en France, pour l'instant. Il faut se souvenir que ces manifestations de Gênes en juillet 2001, qui étaient là? Ils étaient plus de 300 000. C'était des gens très jeunes pour la plupart, hein, moins de 30 ans très majoritairement, qui venaient des différents pays d'Europe notamment, avec un mot d'ordre, un autre monde est possible. Et moi, je trouve, en le disant, si tu veux, moi-même, je suis émue parce qu'effectivement, je me souviens, on a vu des témoignages de ces différents jeunes européens qui étaient en 2001 à Gênes et qui ont été traumatisés, si tu veux, par ce qui s'y est passé, et qui étaient là comme lanceurs d'alerte. 20 ans avant, ça fait 21 ans que ça s'est passé, et il y a 21 ans, ils étaient lanceurs d'alerte et ils disaient « le monde ne va pas bien, on est complètement en train de courir à sa perte ». Ils étaient lanceurs d'alerte au niveau du changement climatique, au niveau des délires sur la planète, etc., bien avant l'heure. C'est eux qui étaient là. C'est eux qui étaient là et c'est eux qui ont subi une répression féroce, et Vincenzo en fait partie.
Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons les a crus. Démocratie fait-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien.
En juillet 2012, la Cour de cassation de Rome rend son arrêt. Elle confirme la condamnation pour dévastation et pillage à l'encontre de 10 manifestants ayant participé aux manifestations à Gênes en 2001.
L'incarcération immédiate est requise pour 3 d'entre eux, dont Vincenzo Vecchi, qui écope de 12 années et 6 mois de prison pour dommages causés à des biens.
Pour échapper à cette peine, Vincenzo se réfugie en France.
Allô, oui, bonjour.
Bonjour Pascal, c'est Joseph de Radio Sainte-Afrique.
Oui.
Donc Pascal, toi tu as été avocate et magistrate.
J'ai eu une carrière hybride moi, oui, et, j'ai fait les deux.
Et tu es très investie dans le collectif de soutien à Vincenzo.
Je suis très investie dans l'affaire de Vincenzo parce que bah, je, comme j'ai été juriste toute ma vie, je tolère difficilement l'injustice. Et là, elle me paraît tout de même massive et puis qui gagne des batailles de plus en plus. Et mon rôle donc a été au début, comme c'était un des amis d'amis, plus de conseiller juridiquement, d'expliquer pédagogiquement aux membres du comité qu'est-ce que c'était qu'un MAE, quelle était la procédure, d'avoir un rôle de transmission pédagogique des ressorts juridiques de cette affaire en fait.
D'accord. Donc, suite à la décision de l'Italie d'émettre ce MAE en 2011, Vincenzo est arrêté en 2019. Et il va y avoir deux cours d'appel qui vont être saisies, Rennes puis Angers, et qui par deux fois vont rejeter le MAE.
Oui. Alors, effectivement, il y a eu au début de cette histoire procédurale en France beaucoup d'espoir parce que par deux fois, deux cours d'appel, c'est quand même pas rien. Deux cours d'appel, c'est quand même des magistrats chevronnés. D'abord la cour d'appel de Rennes et puis la cour d'appel d'Angers qui ont refusé l'exécution du MAE et qui donc se sont opposés à la remise à l'Italie de Vincenzo Vecchi. Donc les arguments étaient très forts, très justes. C'était pas les mêmes pour les deux cours.
La mobilisation ne faiblit pas. Environ 200 personnes étaient réunies ce vendredi à Rennes pour soutenir Vincenzo Vecchi et réclamer sa libération. Cet Italien de 46 ans, militant anticapitaliste, a été arrêté le 8 août après 18 ans de cavale. Deux mandats d'arrêt européens avaient été émis, la justice italienne a demandé son extradition. Avant de le livrer à l'Italie, la justice française doit examiner le dossier. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a demandé un supplément d'information aux autorités italiennes.
La première fois, la cour d'appel de Rennes a refusé l'exécution du mandat d'arrêt européen parce qu'elle a estimé que la procédure était nulle et elle a donc ordonné sa remise en liberté. Il avait été détenu au moment de son arrestation du 8 août 2019 jusqu'au mois de novembre 2019. Et elle a estimé que cette procédure était nulle et irrégulière. Alors le procureur, lui, il a fait un pourvoi en cassation, puisque c'est déjà en appel, donc il a fait un pourvoi en cassation devant la cour de cassation. Et là, on peut dire, alors c'est toujours difficile pour un ancien magistrat d'être critique par rapport à ses collègues, mais je vais l'être, je l'assume. Je pense que vraiment la chambre criminelle de la cour de cassation là, a fait un petit tour de passe-passe, s'en est tenu finalement à la lecture tout à fait stricte de ce qu'avait dit Vichy. Vincenzo en disant « si je suis remis », donc c'était une espèce de... il a pas demandé pour tout de suite, pour immédiatement, donc ce qui rajoutait au texte du code de procédure pénale, hein, c'était d'accord. Vraiment une... Bon, donc ça c'est déjà une première chance qui a été... qui est passé, quoi, hein, puisque on a ajouté au texte de code de procédure pénale une condition qui ne le contenait pas. Donc voilà, donc il y a eu cette cassation où on a estimé qu'il n'avait pas demandé pour tout de suite. Enfin bon, c'est quand même une procédure urgente qui normalement se déroule en 2-3 jours s'il n'y a pas de personne qui. S'il n'y a pas de recours, s'il n'y a pas de procédure qui suit, hein. C'est une procédure extrêmement rapide, hein. C'est fait pour ça. On arrête la personne et en 2-3 jours, elle est remise à son pays.
Matin d'août 2019, t'es embarqué par les cœurs. Après le choc, il faut se bouger, c'est la naissance du comité.
On n'est plus là simplement pour demander des choses, mais on exige fermement que les dossiers soient cassés et on exige fermement que notre copain, notre ami, notre compagnon soit libéré.
Ouais, il n'a pas tué, n'a pas volé, mais a manifesté. Depuis quand prend-on 12 ans pour exprimer ses idées? Il n'a pas tué, n'a pas volé, mais a manifesté. Depuis quand prend-on 12 ans pour exprimer ses idées?
Donc la cour de Rennes a rendu son arrêt début 2020. La cour de cassation ou de fin 2019, la cour de cassation début 2020 et elle a renvoyé donc devant la cour d'appel d'Angers. Et cette deuxième cour d'appel d'Angers s'est tournée vers d'autres arguments disant que c'était un délit quand même assez mineur qui n'avait pas été mentionné dans le texte du mandat d'arrêt européen et que donc il fallait absolument que il y ait double incrimination. Alors c'est toujours un peu compliqué pour ne comprendre ce que ça veut dire double incrimination, mais c'est en fait très très simple. Ça veut dire que quand une personne est recherchée pour un délit ou un crime dans le pays qui a émis le mandat d'arrêt européen, qui l'a déjà jugé ou qui la recherche, eh bien il faut que l'infraction pour laquelle il a été recherché ou pour laquelle il a été jugé, se retrouve dans le droit du pays où il se trouve, quoi, où le mandat d'arrêt est exécuté.
Ce qui n'est pas le cas.
Et là, la cour d'appel d'Angers a dit non, moi je ne retrouve pas de délit de crime équivalent à dévastation et pillage dans le droit français. En plus, j'examine les faits et je dis qu'il y a au moins deux où c'est sûr qu'il ne peut pas être déclaré coupable chez nous, hein, c'est parce que nous, on ne connaît pas la complicité passive, en fait. Hein, on ne connaît pas le fait que vous êtes complice ou auteur d'un crime ou d'un délit sans y avoir participé matériellement, quoi, sans avoir fait quelque chose, en fait. Hein, c'est assez facile à comprendre. Et donc moi j'estime que pour deux faits sur les sept que contient dévastation et pillage pour lequel Vincenzo Vecchi a été jugé, et bien pour deux de ces faits graves d'ailleurs, hein, puisque ça s'agissait d'une voiture brûlée puis d'une banque pillée, ben, il était juste là, il était présent, mais enfin il n'a rien fait, quoi. J'estime qu'il n'y a pas de double incrimination, il n'y a pas d'équivalent dans le droit pénal français. Qui fait qu'elle a refusé aussi la remise. Et il y a eu, ce qu'on dénonce comme un acharnement judiciaire, de nouveau un pourvoi en cassation du procureur général d'Angers cette fois-ci. Et donc on s'est retrouvé devant la cour de cassation, tout ça pendant plusieurs années, qui elle a rendu un nouvel arrêt.
C'était en janvier de 2021, c'est ça, hein ?
C'est ça, le 26 janvier 2021.
Donc, et la Cour de cassation de Paris refuse de statuer, c'est ça?
Alors, la Cour de cassation, dans cet arrêt, on est tombé à peu près sur la même composition. Alors, c'était plus ambigu. Elle a dit, ce qui était un arrêt presque de principe, hein, pour le droit français, oui, on est d'accord, la Cour d'appel d'Angers a bien jugé. Effectivement, dans notre droit français, il n'existe pas de concours moral, de responsabilité été passive par le simple fait qu'un manifestant soit là et qu'il soit déclaré responsable des dégradations qui sont commises autour de lui. Ça, on est d'accord avec ce raisonnement. C'est bien jugé. Effectivement, on ne peut pas dire que Vincenzo Vecchi ait commis deux défaits sur les sept qui lui sont reprochés dans dévastation et pillage. Et donc, on est d'accord. Et puis, au lieu de dire, eh bien voilà, ça y est, la messe est dite, on n'exécute pas le mandat d'arrêt européen pour dévastation et pillage, ce qui enlevait 10 ans de prison, hein, puisque il a pris 10 ans de prison pour dévastation et pillage sur les 7 faits. Et eh bien, elle dit, on va quand même demander l'avis à la Cour de justice européenne. Et donc, sur l'interprétation des textes européens en matière de mandat d'arrêt européen.
Mais il semblerait qu'il ait la décision que ce soit renvoi à la Cour de justice européenne, malheureusement.
Finalement, la Cour de cassation sursoit à statuer. Elle reporte son jugement au 22 juin prochain. À Rochefort-en-Terre, la colère et le désarroi sont immenses.
Ça fait vraiment penser au procès de Kafka. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. On se retrouve broyé dans une machine judiciaire sans l'avoir voulu. Je veux dire, il était manifestant. Moi, j'ai manifesté dans ma vie à plusieurs reprises. Si j'avais su que je risquais 12 ans et demi de tôle pour avoir manifesté, je serais resté chez moi devant la télévision, évidemment.
Vincenzo Vecchi a été condamné en Italie pour avoir participé à une manifestation altermondialiste en 2001 à Gênes. Réfugié en Bretagne depuis 9 ans, l'Italie demande son extradition. D'appel, en pourvoi en cassation, son cas est pris dans un tourbillon judiciaire de questions de droit spécifiques. Résultat, la Cour de cassation saisit la Cour de justice de l'Union européenne et reporte le procès de 6 mois. Une victoire en demi-teinte.
Cette Cour de justice européenne qui a pris sa décision ce mois de juillet, le 14 juillet 2022.
C'est ça.
Et qu'est-ce qu'elle a pris comme décision alors ?
Alors, il faut bien distinguer la Cour de justice européenne et la Cour européenne des droits de l'homme, parce que c'est pas du tout la même chose. La Cour européenne des droits de l'homme, elle juge sur les grands principes, les droits, etc. On n'aurait sûrement pas eu le même résultat. La Cour de justice européenne, elle est là pour que les outils juridiques européens, dont le mandat d'arrêt européen, fonctionnent bien. Hein. Donc elle est très regardante sur l'efficacité de ces instruments juridiques. Et sans surprise, malgré qu'on se soit bien défendu, je pense. Eh bien, elle a dit oui, faut pas regarder de trop près. Tout peut être un petit peu équivalent. Et elle vient de rendre un arrêt qui est extrêmement dangereux pour Vincenzo Vecchi au premier chef, mais aussi pour n'importe quel citoyen européen. C'est-à-dire qu'elle a dit la double incrimination, c'est une exception, donc faut l'interpréter très strictement. Finalement, tout est un petit peu concordant, équivalent avec tout. Du moment qu'il y a un petit délit qui pourrait être comparable, on a qu'à être similaire dans les deux droits du pays d'exécution et du pays d'émission. On va faire comme si ça pouvait fonctionner. Voilà. Donc c'est quand même très grave. Et puis aussi, la question lui était posée clairement, très nettement par la Cour de cassation, qui avait quand même un peu verrouillé sur ce point-là, en disant, mais est-ce que vous pensez que ça sera proportionnel, alors que le principe de proportionnalité, il est dans la Convention, dans la Charte européenne des droits de l'homme, dans la Convention des droits de l'homme européen, est-ce que vous pensez que ça va rester proportionnel si on l'a condamné à 10 ans pour 7 faits et que le pays d'exécution ne le reconnaît coupable que de 5 sur son territoire. Donc là, si c'est forcément, ça aurait été plus sévère pour 7 que pour 5. Donc, au niveau du principe de proportionnalité de la peine par rapport aux faits commis, là, il y a un hic quand même. Et bien là, elle a aussi balayé cet argument en disant, mais la question de la proportionnalité, finalement, c'est pas le problème du pays d'exécution. Lui, il faut qu'il exécute le mandat d'arrêt européen pour pas nuire à l'automaticité du mandat d'arrêt européen. Donc on se retrouve dans cette situation complètement kafkaïenne. On est face à une incroyable injustice quand même fait à ce citoyen italien et européen, et où plus ça va, plus il est piégé, quoi, où le piège se referme sur lui.
Ça veut dire que si cette décision, Pascal, fait jurisprudence, une dame qui refuse d'avorter en Pologne, par exemple, et qui vient se réfugier en France, pourrait être expulsée.
Ah mais complètement, voilà, c'est ce que ça veut dire. Tout à fait. Ça veut dire que une dame qui aurait, par exemple, avorté en Pologne, ou qui serait une dame qui aurait aidé à avorter en Pologne, donc quelqu'un qui aurait aidé quelqu'un d'autre, eh bien, qui se réfugierait en France pour ne pas être poursuivie ou jugée en Pologne, eh bien, la France serait obligée de le remettre. C'est exactement le sens de cette décision, parce que on trouverait dans ce cas-là une bien sûr, nous, le délit d'avortement n'existe pas dans notre droit, mais cette jurisprudence dit, mais du moment que vous avez, par exemple, atteinte à l'intégrité physique ou violence volontaire ou homicide volontaire, puisque certains reconnaissent au fœtus le fait d'être déjà une personne physique, voyez, vous trouvez si vous pouvez prendre n'importe quelle infraction pour dire, voyez, c'est un peu comparable, eh bien, l'exemple que nous venons de prendre est complètement réalisable. Donc, c'est pour ça que nous disons que c'est vraiment grave au niveau des droits de la personne, du citoyen européen.
Oh, libertà, permet de conservar come una terra rara. Sei stata tu, non me lo scordo mai, a segnar la mia strada. Per andare chissà di paese in città a cercar la fortuna e sognar di trovar la mia felicità sotto un raggio di luna. O libertà dalla tua volontà, son stato sottomesso, finora t'ho donato quel che ho, salvo un vestito smesso. E che cosa fatti per poter soddisfar tutte le tue esigenze? Ho cambiato paese, ho lasciato gli amici e mutato esperienze. O libertà, non m'hai concesso mai le minime abitudini. Per te imparai a stare in compagnia delle mie solitudini. M'hai insegnato a troncar proprio giusto al final ogni bella avventura, dimostrandomi che se lo vogliamo noi, il dolore non dura. O libertà, chi avrebbe detto mai che oggi t'avrei lasciato? Ed il cammino che tu avevi tracciato, per sempre abbandonato. Quando l'ingenuità spinse la volontà solo per una sera, accettare d'entrare nella gabbia d'amor della mia carceriera. Accettare d'entrare nella gabbia d'amor della mia carceriera.
Pascal, est-ce qu'il y a encore possibilité de faire appel à cette décision du 14 juillet 2022 ?
Alors, c'était un arrêt d'interprétation. Hein. La Cour de cassation demandait une interprétation. Le problème, c'est que cette interprétation qu'elle a donnée, et qui est beaucoup trop extensive, qui vide un peu le texte de sa substance sur la double incrimination, c'est-à-dire qui on voit plus quand est-ce que ça pourrait s'exprimer, exister, eh bien, ça s'impose à la France. Ça s'impose à l'autorité judiciaire française. C'est dans les conventions européennes. C'est-à-dire que si elle donne un résultat, il faut que la juridiction française se conforme à cette interprétation, même si elle estime qu'elle n'est pas la bonne. Donc, je vous dis, c'est un peu l'alerte maximale dans ce dossier parce que ça nous coupe quand même pas mal l'herbe sous les pieds au niveau de la défense et des moyens juridiques à actionner pour Vincenzo Vecchi. Hein.
Et il reste, Pascal, une ultime audience en cours de cassation ce 11 octobre 2022, le mois prochain, donc à Paris.
Ouais. C'est ça, puisqu'elle avait demandé l'interprétation, donc elle va, l'affaire lui revient, elle est renvoyée par la Cour de justice européenne pour qu'elle statue définitivement par un arrêt. Et là, comme je vous le disais, nos moyens de défense se sont fortement amenuisés et réduits à peau de chagrin, puisque on ne peut plus utiliser l'argument de la double incrimination, puisqu'on est obligé de se conformer à ce qui vient d'être rendu par la Cour de justice européenne et qui nous brime totalement sur justement cette question de la condition de la double incrimination, de l'équivalent dans le droit français de dévastation et pillage, et puis aussi sur le principe de proportionnalité. On ne peut plus s'exprimer là-dessus. Alors on est en train d'essayer de trouver des arguments d'autres arguments sur l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, puisque Vincenzo vit depuis 11 ans en France, qu'il a un travail, qu'il est associé dans l'entreprise où il est salarié, c'est une scope, qu'il a une compagne, des amis, il est complètement inséré, il parle très bien français. Donc tout ça, on essaye de trouver d'autres arguments, mais sur cette exception de la double incrimination qui était vraiment son cas à lui, malheureusement, on se retrouve un peu privé de moyens de défense. Et c'est d'autant plus incroyable que la Cour de justice européenne justifie sa décision en disant « Oh là là, mais alors si on empêche ce mandat d'arrêt européen d'exister et d'être automatique, il va plus pouvoir être mis en œuvre. » Ce qui est complètement faux. Parce qu'il faut bien se rendre compte que sur le plan du droit, en fait, c'était un instrument qui a été créé dans le droit européen, ce mandat d'arrêt européen, pour s'échanger une toute autre sorte de personnes. C'était des criminels, des terroristes, des trafiquants. C'est pour pouvoir s'échanger plus facilement que dans l'extradition entre pays européens, des criminels. Donc, pour être sûr que ça s'échange très rapidement, le mandat d'arrêt européen, il est automatique, il est déjà automatique, et prévu comme ça dans le droit européen, puis dans tous les États qui les 27 pays qui composent les États européens, parce qu'il y a une liste de 32 infractions qui sont parmi celles que je viens de dire, c'est-à-dire les grands criminels, le banditisme, etc. Donc, qui regroupe tout. Et puis, il y a la toute petite exception dans l'article suivant pour quand ça ne rentre pas dans la liste. Et là, ça nous concerne, puisque ça concerne un simple manifestant qui est accusé sur une loi qui remonte à 80 ans et qu'on avait sorti des oubliettes. C'est juste un manifestant, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui était là et puis autour de lui, il y a eu des dégradations et il a pris 3 planches sur un chantier et il est condamné à 12 ans et demi de prison. C'est vrai qu'il y a de quoi être révolté.
Tout à fait. Lui qui se battait pour qu'un autre monde soit possible. Alors, il y aura la décision qui sera définitive ce 22 octobre.
C'est 11 octobre, oui.
Le 11 octobre. Octobre. Non, le 11 octobre, c'est l'audience, mais la décision.
C'est l'audience.
La décision finale, ce sera dans les jours qui suivent.
Alors, ils nous le diront quand il y aura eu l'audience. Il va falloir certainement quelques jours. Maintenant, c'est vrai qu'on est sur une procédure normalement d'urgence, donc je pense que l'arrêt va être rendu assez rapidement.
Ce qui veut dire que Vincenzo peut être extradé aussitôt.
Et il
nous restera la Cour européenne des droits de l'homme, mais ce n'est pas suspensif.
Voilà, c'est ça. Donc après dernier recours, qui ne peut d'ailleurs être saisi, Cour européenne des droits de l'homme, que quand tous les recours du pays sont épuisés, hein, qu'on n'a plus aucun autre recours, on peut saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Et sauf que c'est effectivement pas suspensif, sauf exception si votre vie est en danger. Ce qui n'est pas son cas, il y a jusqu'à 12 ans et demi de prison. Bon, alors on va essayer quand même, parce qu'il y a des cas exceptionnels où ils ont reconnu que ça pouvait, que vu l'insertion, ça pouvait, voilà. Il y a ça, il y a aussi la possibilité, donc ça c'est important, petit espoir, petite porte entrouverte, que la Cour de cassation choisisse de renvoyer encore une autre fois sur une autre cour. Pour dire, il est quand même en France, et il y a des dispositions dans le droit européen qui prévoient que quand quelqu'un est depuis très longtemps en France, il puisse exécuter sa peine en France. Donc voilà, donc là on en est là à se demander si on ne va pas demander à ce qu'il exécute cette peine en France. Avec des aménagements très certainement qu'un juge d'application des peines pourrait décider. Donc ça, il y a encore cette possibilité-là. Donc on en est là. Et si c'était ça, comme c'est des questions de fait, la Cour de cassation pourrait pas en juger, puisqu'elle ne juge que le droit. Et donc elle pourrait renvoyer à ce moment-là sur une nouvelle cour d'appel. Et ça nous permettrait peut-être de retrouver d'autres arguments, d'en présenter d'autres, de revenir peut-être à notre argument initial qui est la nullité de la procédure puisqu'elle est vraiment nulle.
Très bien, Pascal. Eh bien, on va y croire. Et puis là, maintenant, c'est Hervé qui va nous expliquer l'importance de médiatiser un maximum l'histoire de Vincenzo, l'histoire de CMAE et l'importance peut-être d'être nombreux à Paris le 11 octobre.
Voilà, exactement. Oui, je pense que nous, j'en terminerai par là. C'est sûr que c'est notre compatriote breton, notre ami, et que c'est aussi pour ça qu'on lutte, mais au travers de lui, c'est pour les principes, c'est pour les droits fondamentaux de tout citoyen européen d'avoir le droit de manifester sans avoir peur de prendre une peine extraordinaire à faire, parce que des gens autour de vous auront commis des faits de dégradation. C'est pour tout ça, c'est pour que effectivement une femme polonaise soit pas poursuivie pour avoir avorté et que la France soit obligée de le remettre. C'est vraiment pour ces droits fondamentaux et ces valeurs essentielles que nous combattons.
Un matin d'août 2019, t'es embarqué par les keufs. Après le choc, il faut se bouger, c'est la naissance du comité. Nos cerveaux sont mutualisés, on se sent tous concernés. Les petites gens vont farfouiller, trouver des failles dans le dossier. Il n'a pas tué, n'a pas volé, mais a manifesté. Depuis quand prend-on 12 ans pour exprimer ses idées? En 2001, j'ai 8 de gêne, 300 000 gens s'agènent. Ils viennent pour scander leurs idées, mais vont se faire torturer. Les policiers sont condamnés, mais restent en liberté. Vincenzo Vecchi aujourd'hui encore et toujours poursuivi. Il n'a pas tué, n'a pas volé, mais a manifesté. Depuis quand prend-on 12 ans pour exprimer ses idées? En 2006, Milan tolère des faves qui crachent leur colère. Vincent et d'autres vont se soulever, vite on va les sanctionner. Cette peine, elle est déjà purgée, mais l'Italie s'arrangera pour ajouter ça au dossier. Qui est-ce qui bafoue le droit? Il n'a pas tué, n'a pas volé, mais a manifesté. Depuis quand prend-on 12 ans pour exprimer ses idées? La France sera-t-elle complice d'une Italie hors la loi, de lois fascistes et d'injustice dont sont composés tes mandats. Où soutiendra-t-elle pour une fois ceux qui risquent leur liberté, ces alerteurs des dégâts que nos États ont engendrés? N'a pas tué, n'a pas volé, mais a manifesté. Depuis quand prend-on 12 ans pour exprimer ses idées? N'a pas tué, n'a pas volé, mais a manifesté. Depuis quand prend-on 12 ans pour exprimer ses idées?
Non. Donc, bonjour Hervé.
Bonjour.
Tu es membre du très dynamique collectif de soutien à Vincenzo Vecchi. Et vous faites depuis 2019 un boulot immense, médiatique, juridique, sur Internet, sur le terrain aussi. Et là, on arrive vraiment, il faut mettre le paquet, mais pas que vous, tous les gens soucieux de liberté en France. Et il y a notamment un rendez-vous important, c'est le 11 octobre 2022 devant la Cour de cassation à Paris.
Alors ça, c'est une effectivement, c'est une date qu'on attend avec un peu de stress et d'angoisse, évidemment. Hein. C'est pas la première fois que Vincenzo passe devant des juges. Et donc là, c'est annoncé comme étant un moment fatidique le 11 octobre. Donc on va mobiliser fortement, effectivement. Je pense que pas mal d'entre nous iront à Paris. Et on va tenter aussi d'élargir à cette occasion la visibilité de la situation au niveau européen en appelant à ce que dans différents pays d'Europe des rassemblements se fassent devant les ambassades et consulats de France et d'Italie. On est organisé en différents groupes de travail. Donc je travaille plus au niveau de l'interco, comme ça qu'on l'appelle. Donc c'est l'intercomité, les différents comités de soutien qui se montent en Bretagne et en France. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a un comité à Saint-Afrique qui s'est monté avec des gens très dynamiques.
Et donc, suite à l'invitation de l'intercomité, de créer des comités à droite à gauche en France.
Et les RIG du comité de soutien aveyronné à Vincenzo Vecchi.
Et on a choisi, en Sud-Aveyron, de créer un comité. Alors, l'idée, c'est que Sud-Aveyron, c'est parce que on pourrait s'appuyer sur les deux villes que sont Millau et Sainte-Afrique pour s'organiser.
En quoi cette lutte pour la liberté de Vincenzo est emblématique pour toi ?
Il y a le fait que c'est un nivellement par le bas des libertés individuelles en Europe. Et c'est qu'on permet aux lois les plus sanguinaires d'être valables sur d'autres territoires, enfin sur d'autres pays, dans d'autres pays de l'Union européenne. C'est le fait aussi de dire aux justices, enfin disons aux justices nationales des pays d'exécution du MAE, que en fait elles sont plus justices, mais simplement des administrateurs qui doivent simplement traiter un mandat d'arrêt et faciliter seulement l'extradition, enfin pas l'extradition, mais le renvoi, la livraison de la personne aux autorités d'émission.
La prochaine date qui peut être notée, c'est le 24 septembre, mmh. où déjà on s'organise pour faire un événement à Nantes. Donc je pense qu'il y a des gens qui viendront de différents rangs de Bretagne, mais également d'Angers, parce que ça a bien bougé à Angers, on a eu beaucoup de soutien, entre autres parce que Vincenzo en appel est passé à la cour d'Angers. Mm-hmm. Donc le 24 septembre à Nantes, et on n'y est pas encore, au 24 septembre, peut-être que s'il y a des volontés d'organiser des petits rassemblements, des événements à cette même date ailleurs
voilà.
Dans l'Hexagone, c'est tout à fait bienvenu.
On mettra un lien vers votre site où vous répertoriez aussi les actions qui sont menées et qui sont prévues. Voilà, quoi.
Donc on fait des actions sur les ponts là, dans les jours qui viennent aussi, sur les ponts de la voie express. Ouais. Bon, c'est une chose qu'on fait régulièrement en Bretagne, on est entouré par une voie express. On se met sur les ponts et puis on communique par des grosses banderoles.
Est-ce que le soutien à Vincenzo a dépassé les limites, si tant est qu'elle est des limites, de la Bretagne?
Ah oui, oui, clairement, oui, clairement. Le comité à Paris, un comité à Paris qui bouge bien, je sais pas, Saint-Afrique, il y a Angers s'est bien mobilisé, et Marseille également, ouais, ça bouge, et surtout ce qui est important de dire, effectivement, le 11 est une date fatidique, qui pourrait être une date couperet, mais quoi qu'il arrive, sauf si Vincenzo est entièrement libéré de cette de cette douche boulet là qui lui est mis au-dessus de la tête, quoi qu'il arrive, même si la décision était pas en sa faveur, on lâchera pas la lutte. Si en face il y a une soi-disant justice qui nous dit bah ouais, c'est terminé, maintenant on règle et puis il n'y a plus de recours, la lutte continuera. Il y a cette justice de l'État, des États. Puis il y a la justice populaire. La justice populaire a depuis longtemps tranché. C'est inadmissible que Vincenzo puisse pas avoir une vie tranquille en Bretagne comme il l'a choisi. Et le 11 octobre, effectivement, c'est une grosse date. Et là, on espère des actions au niveau européen. Parce qu'on parle depuis le début d'un mandat d'arrêt européen et que la décision de la Cour européenne de justice vient de nous démontrer qu'une loi fasciste italienne peut être appliquée partout en Europe sans aucun problème. On peut avoir des conséquences partout en Europe sans aucun problème. Donc il y a une jurisprudence, mais ça Pascal a dû en parler, qui nous inquiète fortement.
Merci aux membres du comité de soutien à Vincenzo Vecchi qui ont permis la réalisation de cette émission. Pour vous informer sur les actions du comité de soutien et participer en soutenant ou en relayant leurs actions, consultez leur site comité-soutien-vincenzo.org.
Voilà, il y aurait énormément de choses à dire, mais malheureusement, on va pas avoir beaucoup de temps pour commenter. De toute façon, on vous donnera le résultat du 11 octobre et on aura certainement l'occasion de revenir là-dessus. Tu voulais dire quelque chose sur le délit de saccage et de dévastation?
Oui, c'est un délit qui date de 1930.
Ouais, hein. Il n'a pas été spécifié.
C'est pas 80 ans, c'est 92 ans.
Ouais.
C'est incroyable quand même.
Directement issu du régime fasciste.
Ah oui, complètement. On en est en plein dedans. Hein. Mussolini prend le pouvoir en 22.
De toute façon, les lois... politiques issues du code pénal italien, hein, qui ont été nombreuses reprises utilisées contre des militants subversifs, voire révolutionnaires, sont issues du code Rocco, qui est le code pénal qui a été rédigé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et Rocco était un juriste qui avait été membre du fascisme.
Ouais.
Bon, moi, je te coupe la parole parce que...
Moi, j'ai une question à te poser quand même.
Ouais.
C'est toi, tu étais à Gênes.
Ouais.
Et donc, ça serait important, peut-être, que tu nous dises, après coup, ce que tu ressens par rapport à cette affaire. Quoi.
Ah ben, ce que je ressens, c'est que, bon, alors, cette émission, elle est réalisée, et elle est très bien faite sur l'aspect juridique, et elle explique bien, elle est très pédagogique sur le caractère du MAE et sur le droit. Et du coup, la conséquence, c'est que elle touche aussi les limites. C'est-à-dire qu'on a deux arguments principaux qui sont évoqués dans cette émission. La première, c'est il a rien fait. La deuxième, c'est que le droit, c'est pas ça. Le droit, c'est la défense des droits fondamentaux. Alors, non. Le droit, c'est l'expression d'un rapport de force dans la société. Ouais. Le droit, c'est politique.
Ouais.
Le droit, c'est quelque chose qui est utilisé par l'État et par la bourgeoisie, par les puissants, donc par les dominants, pour nous maintenir dans des cases bien étroites. Alors effectivement, il n'est pas interdit de se défendre et d'utiliser le droit, c'est pas ce qu'on est en train de dire de rejeter. Mais si on le met pas en perspective par rapport à ce qui se passe dans la société, ça marche pas. Forcément, on est soi-même confronté à ses propres limites, puisqu'on tombe dans le jeu de l'adversaire quelque part. On tombe dans la cour ou dans le cercle que l'adversaire nous a tracé. Effectivement, là, on a des avocats qui utilisent des arguments de bon sens, de droit, Dire ben non, ça colle pas quoi. La deuxième chose, c'est que y a quand même un problème politique à dire il a rien fait ou il a fait quelque chose. Ouais. Est-ce qu'on a droit à une prescription? Est-ce que tout se vaut? Est-ce que dévastation et saccage de trucs matériels, ça vaut 10 ans de prison? Bon, ça c'est pareil, hein, on peut en discuter, mais il faut poser la question politiquement. Par exemple, je suis assez surpris que au cours de cette heure, il n'a pas été évoqué. Ça a été évoqué, hein, les manifestations de Gênes à certains moments. Bon, c'est l'apogée du mouvement qu'on a qualifié d'altermondialiste. Une apogée, c'est quand ça arrive à son maximum, mais c'est quand ça décroît, c'est aussi la fin. Hein. Il est intéressant de voir que à aucun moment il n'est fait mention de Carlo Giuliani, qui est un jeune qui a été assassiné, ouais, de deux balles dans la tête, deux balles dans la tête, deux. Je répète, hein, c'est pas une, deux. Il avait 21 ans. Le brigadier, le carabinier qui a été responsable de son assassinat a été évidemment relaxé. Les 45 brigadiers qui ont participé à la torture de la caserne Bozzanetto, puisqu'il y aura au cours de ces trois jours enlèvement, arrestation, séquestration dans une caserne, enlèvement et arrestation dans une école, l'école Diaz, et torture. Séquestration dans une caserne, la caserne Bozzanetto. La plupart d'entre eux étaient soit condamnés à des peines très légères, soit relaxés, évidemment, innocentés. Et puis, il faut quand même le dire, hein, lors de ces trois jours, ces quatre jours, nous sommes un peu plus de 250 000 à manifester au cours de ces trois jours. Et des dévastations et saccages, des gens qui vont se battre, hein, que ce soit le vendredi, pour le coup où la manifestation va être attaquée, véritablement attaquée, hein, c'est totalement documenté. Hein. J'ai regardé encore ce week-end pour préparer l'émission des documentaires. Hein. Il y a un documentaire qui s'appelle Ordre public à Gênes, hein, qui démontre point par point comment les flics ont attaqué le cortège. Et le samedi, ce sont des centaines, voire des milliers de personnes qui vont participer à des affrontements avec la police, contre la police, et dans la ville de Gênes. C'est comme si, par exemple, on disait on devait isoler des individus dans le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, les scènes d'émeutes. À partir de quand, à un moment, la violence, elle fait pas partie du répertoire de la contestation, surtout quand elle est dirigée contre des objets. Donc, jouer la question de l'innocence, si c'est le choix qui a été fait, évidemment, par les gens qui sont là, pourquoi pas. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que pourquoi ces 25 là? Pourquoi ces 20 là? Pourquoi lui 20 ans après? Pourquoi est-ce que nous, justement, on sort pas, on dit, mais moi j'y étais, j'ai participé aussi à ça. Donc si vous le prenez, prenez-moi aussi. Et puis il va falloir aussi mettre la France et l'État français devant ses responsabilités. Bon, c'est un vieux truc, hein, les Italiens et la subversion italienne qui viennent justement en France pour trouver de l'air.
Oui,
ça c'est un vieux truc qui serve d'otage, hein, en fait, par rapport au truc. Et puis, ben, va falloir maintenant que Vincenzo, espérons qu'il aura la force et la possibilité de le faire, de dire à l'État français, bon ben d'accord, ben vous venez me chercher quoi. Vous venez me chercher parce que derrière, les Bretons, ils sont capables aussi de subversion et de se mobiliser. Hein, on l'a vu dans l'histoire à nombreuses reprises. Donc maintenant, il faut que l'État français fasse l'effort de mettre des moyens en œuvre pour aller chercher Vincenzo quoi. Si vraiment ils le veulent, mais ça évidemment c'est sa responsabilité, c'est un choix et une décision que nous on a dit ici, mais qui est pas forcément facile à prendre quoi. Et absolument politiser et socialiser cette affaire, parce que la maintenir sur le terme stricto sensu du droit, c'est évidemment intéressant et intelligent, mais c'est que une des jambes sur lesquelles doit porter
surtout que le rapport de force politique en Europe actuellement n'est pas favorable.
Et à noter que la plupart des gens qui ont participé à cet événement à Gênes, et notamment les représentations politiques, hein, tout ce qui est attaque et tout ça, tout ce qui est José Bové et compagnie, etc., etc., on voit la différence, hein, et on voit comment on traite les gens, est-ce que les gens sont devenus 20 ans après, hein. Où sont ces gens-là? Où sont ces gens qui faisaient partie de ce mouvement altermondialiste, comme on disait, et où sont-ils aujourd'hui pour défendre des individus comme Vincenzo, qui 20 ans après sont encore le fruit de la répression de ce G8 et de l'État italien. Voilà, quand on vous dit qu'il ne faut pas faire confiance à des politiciens, voilà, on s'en rappelle. Bon, ben on aura l'occasion certainement de revenir là-dessus et de dire encore des méchancetés.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de très dur, mais d'être très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.